la souffrance d'être dans le flou et de devoir faire semblant. Revenons à la dimension de simulacre. Elle fait bien sûr partie intégrante de nombreux emplois, au moins à un certain degré. C'est le cas de presque tous les emplois de service. Dans une étude devenue classique sur les personnels de bord de Delta Airlines, le prix des sentiments, la sociologue Harley Russell Hochschild a introduit la notion de « travail émotionnel ». Elle a montré comment les hôtesses de l'air devaient déployer des efforts considérables pour créer et entretenir une façade guillerette, empathique et aimable, comme le stipulait leur contrat. Tant et si bien qu'elles finissaient souvent hantées par un sentiment de vide, de dépression ou de désarroi. Au bout du compte, elles ne savaient plus très bien qui elles étaient. Naturellement, ce travail émotionnel ne concerne pas que les professions de service. Quantité d'entreprises l'exigent de leurs employés, même de ceux qui sont dans les bureaux, loin de la clientèle, et particulièrement des femmes. Rappelez-vous l'indignation de Patrick en découvrant qu'on lui demandait de faire semblant de se réjouir derrière sa caisse enregistreuse. Steward ou hôtesse de l'air n'est pas un job à la con. D'ailleurs, j'ai pu observer que peu d'employés du secteur des services estimaient avoir un boulot futile. Dans la plupart des jobs à la con, le travail émotionnel requis est d'un genre assez différent. Là aussi, il s'agit d'aborder une façade et de jouer à faire semblant, mais sans bien connaître ni les règles, ni la raison pour laquelle on joue, ni même l'identité de ses partenaires et adversaires. Au moins, les membres d'un équipage savent exactement ce qu'on attend d'eux. La difficulté dans un job à la con, c'est de comprendre en quoi consiste ce qu'on attend de nous. Une question que j'ai souvent posée à ceux qui m'ont écrit était « Ok, vous me dites que vous ne faites rien de vos journées, mais est-ce que vous pensez que votre supérieur est au courant ?» L'immense majorité répondait qu'ils ne savaient pas. Beaucoup ajoutaient qu'ils avaient du mal à croire que leur chef puisse être aussi aveugle, mais comme le sujet était tabou, ils n'avaient aucune certitude. Fait révélateur, ils disaient même ignorer jusqu'où s'étendait le tabou. Toute règle a ses exceptions, et elles sont apparues dans quelques témoignages. Ainsi, certains supérieurs reconnaissent qu'il n'y a pas de boulot et autorisent leurs subordonnés à poursuivre leurs propres projets, mais dans des limites raisonnables. Or, ce qu'ils entendent par « limites raisonnables » ne tombe pas sous le sens. Il faut procéder par tâtonnement. On ne m'a rapporté aucune situation où un responsable aurait simplement mis les choses à plat avec son employé en énonçant les règles avec clarté et honnêteté. À quel moment celui-ci était tenu de travailler, à quel moment il ne l'était pas, et ce qu'il avait le droit de faire dans ces cas-là. Les dirigeants livrent parfois des informations de manière indirecte à travers leur propre comportement. Dans la collectivité territoriale britannique où travaillait Béatrice, par exemple, le niveau de relâchement toléré les jours de semaine, modéré, était indiqué par l'attitude des chefs, qui regardaient les grands événements sportifs à la télé et s'accordaient d'autres petits plaisirs de ce genre. Quand on était de service le week-end, en revanche, ce n'était pas la peine de faire semblant. Béatrice. Ceux qu'on appelait les hauts dirigeants, les modèles qu'on était censé suivre, regardaient les matchs de la Coupe du Monde en direct sur leur ordi. J'ai interprété cela comme un encouragement au multitasking, et du coup je me suis mise à travailler sur mes projets perso dès que je n'avais pas de boulot. D'un autre côté, dans l'équipe du week-end, c'était Byzance. Tout le monde essayait d'en faire partie, car les heures sup étaient très bien payées, et on n'en fichait pas une. On organisait des dîners le dimanche soir, on surfait sur Internet, on regardait des DVD. J'ai même entendu parler de quelqu'un qui avait apporté un transat pour être plus à l'aise devant la télé. Mais surtout, la plupart du temps, on en profitait pour faire des siestes puisqu'il n'y avait rien à faire. Comme ça, on était frais et dispo pour attaquer la semaine. Parfois, bien que les règles soient explicitement énoncées, on comprend qu'elles sont faites pour être enfreintes. Robin, embauchée comme intérimaire dans une entreprise en Caroline du Nord, mais sans mission, a réussi à atténuer quelque peu l'absurdité de cette expérience en mobilisant ses compétences techniques. Robin. On m'a expliqué qu'il était très important que je m'occupe en permanence. Cependant, jouer ou surfer sur le web était interdit. Ma principale fonction, apparemment, c'était de m'asseoir dans un fauteuil et de faire partie du décor. Au début, ça m'a paru plutôt fastoche. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus pénible dans un job de bureau que d'essayer d'avoir l'air occupé. En fait, au bout de 2 jours, j'ai compris que ça allait être le pire boulot de ma vie. J'ai décidé d'installer Lynx sur mon ordi. C'est un navigateur web en mode texte qui ressemble à une fenêtre de commande DOS. Pas d'image, pas de lecteur flash, pas de JavaScript. Rien que du texte en police monospace sur fond noir. Désormais, tout en me baladant distraitement sur Internet, j'avais l'allure d'un technicien expert entrant des séries de commandes dans son navigateur. Le défilement des pages mettait en évidence ma formidable productivité. Ainsi, Robin a pu passer l'essentiel de ses journées à enrichir et corriger des pages Wikipédia. Beaucoup de jobs intérimaires testent le travailleur sur son endurance à rester assis en faisant semblant de bosser. Il est très rare qu'on lui signale explicitement les restrictions, comme l'interdiction de jouer en ligne pour Robin. Mais d'autres travailleurs temporaires présents dans l'entreprise pourront souvent lui donner une petite idée des règles de base et du degré de violation à partir duquel il court le risque de se faire virer. Dans les jobs plus stables, il arrive que les employés soient liés par une camaraderie qui les autorise à discuter ouvertement de la situation et à imaginer ensemble des stratégies contre leurs supérieurs. Une telle solidarité peut procurer le sentiment que l'on poursuit un but collectif. Robert évoque le cas d'assistant juridique dans un cabinet d'avocats véreux. Robert. Le plus étrange dans ce job, c'est qu'il était presque agréable, même si c'était pour des raisons tordues. Tous les assistants juridiques étaient des personnes futées et intéressantes, et le fait de se retrouver ensemble occupés à des tâches si dénuées de sens a créé des liens très forts dans l'équipe. L'humour noir était de mise. Je m'étais débrouillé pour avoir un bureau où j'étais assis, dos au mur. Du coup, je pouvais passer l'essentiel de mes journées sur Internet ou à me former en programmation informatique. La majeure partie de nos activités était une pure perte de temps. Par exemple, on devait renommer à la main des milliers de fichiers. J'ai trouvé le moyen d'automatiser le processus et j'ai utilisé les heures gagnées pour me consacrer à mes recherches perso. Aussi, je m'arrangeais toujours pour bosser simultanément sur 2 projets supervisés par des patrons différents. Comme ça, je pouvais dire à l'un que le projet de l'autre accaparait tout mon temps. Au minimum, ces stratégies d'esquive sont entourées d'une loi du silence qui va parfois jusqu'à la coopération. Certains ont la chance de tomber sur un supérieur suffisamment honnête et sympa pour fixer les limites de la flémardise de manière quasi explicite. Mais j'insiste sur le « quasi ». Vous ne pouvez pas juste poser la question. Ce n'est jamais aussi simple que ça. Voici le témoignage de Calvin, employé d'astreinte dans une compagnie d'assurance de voyage avec qui j'ai prolongé la conversation. Sa fonction de base, c'est rafistoleur chargé de résoudre les problèmes qui se posent occasionnellement avec la société partenaire. Au-delà de ça, Calvin. Au cours d'une semaine normale, notre société partenaire fait appel à mon équipe une poignée de fois pour avis. Ça veut dire 20 minutes hebdomadaires de vrai boulot maxi. Sinon, un jour ordinaire, j'envoie entre 5 et 8 mails d'une quinzaine de mots. Et une fois de temps en temps, on a une réunion d'équipe de 10 minutes. En pratique, le reste de la semaine m'appartient. Mais attention, je n'ai pas intérêt à le faire savoir. Du coup, je papillonne discrètement entre les réseaux sociaux, les flux RSS et des cours en ligne. Je réduis la fenêtre de mon navigateur et je la garde ouverte sur mon 2e écran. Au bout de quelques heures, je me rappelle que je suis au boulot. Je vais ouvrir l'unique mail reçu entre-temps et je réponds quelque chose du genre « D'accord avec le truc que vous proposez, Merci de bien vouloir lancer la procédure pour le truc. Après quoi, il ne me reste plus qu'à jouer le mec totalement débordé jusqu'à la fin de la journée, chaque jour. David. Et si vous n'aviez pas l'air occupé, qui le remarquerait? Est-ce que vous pensez que votre supérieur sait qu'il n'y a rien à faire et veut juste sauver les apparences? Ou est-ce qu'elle croit réellement que c'est un job à plein temps? Calvin. La chef d'équipe semble être au courant, mais elle n'a jamais laissé entendre que ça lui posait un problème. Les jours où je n'ai absolument rien à faire, je l'en informe et je me propose pour donner un coup de main si un autre service est sous l'eau, par exemple. Apparemment, personne n'a jamais besoin d'aide. Donc mon offre est une façon de lui dire « Si on me cherche, je serai sur Twitter pendant les 8 prochaines heures et vous noterez que c'est extrêmement noble de ma part de vous prévenir. » Elle programme des réunions hebdomadaires d'une heure, mais il n'est pas arrivé une seule fois qu'on dépasse les 10 minutes pour faire le tour de l'ordre du jour. Du coup, on passe les 50 minutes restantes à discuter le bout de gras. Ses propres patrons, là-haut, je ne sais où, ils sont bien conscients des problèmes que l'autre boîte peut causer. Donc j'imagine qu'ils pensent qu'on s'occupe de leurs bêtises, ou en tout cas qu'on est prêt à le faire à tout moment. Ainsi, tous les chefs n'adhèrent pas à l'idéologie du « tu bosses pour moi ». Il n'est pas rare que des managers laissent filer, en particulier dans les grandes organisations où ils n'ont pas vraiment de raison de réagir en propriétaire, ni de craindre que le relâchement d'un subordonné leur crée des ennuis avec leur propre supérieur. Cette forme d'estime mutuelle polie et codifiée est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'honnêteté. Cependant, de nombreuses directions d'entreprise sont bien conscientes du danger que représentent les supérieurs trop sympas et s'efforcent activement de les remettre dans le droit chemin. Différentes personnes employées dans des fast-foods et officiant au comptoir, ce qui, dans ma terminologie, correspond à des jobs de merde plutôt qu'à des jobs à la con, m'ont raconté comment ça se passe. Chaque restaurant est raccordé à un système de vidéosurveillance visant à empêcher que les travailleurs qui ne sont pas occupés se la coulent douce. Si le gars du site central qui contrôle les écrans les surprend à ne rien faire, leur chef est convoqué et se fait incendier. Mais même dans un cadre aussi bienveillant, il reste tabou de fixer des règles trop explicites. Jamais vous n'entendrez quelqu'un reconnaître « Pour résumer, on a besoin de toi qu'en cas d'urgence. En dehors de ça, fais ce que tu veux et c'est juste de ne déranger personne. » C'est pourquoi même Calvin se sent obligé de faire semblant d'être surmené, par gentillesse et par respect, en quelque sorte. Plus classiquement, beaucoup de supérieurs hiérarchiques trouvent une façon subtile de dire « Contente-toi de fermer ta gueule et de jouer le jeu. » Maria. Dès mon premier jour, ma N+1 m'a dit sans détour qu'elle n'avait aucune idée de ce que faisait la personne que je venais remplacer. Heureusement pour moi, a-t-elle ajouté, cette personne était toujours dans les murs puisqu'elle était montée en grade dans l'équipe. Elle allait donc pouvoir me montrer en quoi consistait son ancien poste. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça nous a pris 1h30 à tout casser. Il est apparu que ce poste était à peu près vide de tout contenu. Or, Maria ne supportait pas d'être désœuvrée. Elle suppliait ses collègues de lui refiler une partie de leur boulot. N'importe quoi qui puisse lui donner l'impression qu'elle servait à quelque chose. Finalement, à deux doigts de devenir folle, elle a commis l'erreur d'aller se plaindre ouvertement à sa supérieure. Maria. Elle m'a très clairement ordonné d'arrêter de crier sur tous les toits que je n'étais pas super occupée. Je lui ai demandé de me confier au moins les tâches qui n'étaient attribuées à personne. Elle m'a promis de me montrer quelques-uns des trucs dont elle-même s'occupait, mais elle ne l'a jamais fait. Si ce n'est pas une injonction directe à faire semblant de bosser, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Encore plus extrême, mais en aucun cas exceptionnelle, est l'expérience de Liliane dans le service informatique d'une grande maison d'édition en tant que chef de projet produits numériques. Malgré son titre pompeux, souligne-t-elle, ce poste n'est pas nécessairement un job à la con. Elle en avait déjà eu un de ce genre auparavant. Certes, il n'était pas très exigeant, mais elle travaillait à résoudre de vrais problèmes avec l'aide d'une petite équipe chaleureuse. Dans cette nouvelle boîte, par contre, Voici l'enchaînement des événements tel qu'elle a pu le reconstruire, l'essentiel s'étant produit juste avant son arrivée. Son supérieur direct, une espèce de matu-vu arrogant, obsédé par les dernières lubies en matière de management et par le jargon creux qui allait avec, avait pondu une série d'instructions sans queue ni tête qui avait eu pour conséquence fortuite de priver Liliane de toute responsabilité. Quand elle a soulevé le problème, évidemment avec un luxe de précaution, ses inquiétudes ont été balayées, non sans roulement d'yeux et autres gestes d'agacement. Liliane. On pourrait penser que, en tant que chef de projet, je dirige plus ou moins les opérations. Mais non, la procédure ne prévoit rien de tel. En fait, personne ne dirige les opérations. Tout le monde est perdu. Les autres auraient besoin de mon aide. Il faudrait que j'organise le boulot, que je leur donne de l'assurance, tout ce qu'on attend généralement d'un chef de projet puisque c'est mon titre. Mais je n'ai aucune autorité ni aucun contrôle sur rien. Du coup, je lis. Beaucoup. Et je regarde la télé. Franchement, je me demande comment mon patron imagine que j'occupe mes journées. Liliane se retrouve dans la position inextricable de devoir se créer deux faux personnages. L'un destiné à son chef, l'autre à ses subordonnés. Le premier parce qu'elle ne peut que spéculer sur ce que son boss attend réellement d'elle, si tant est qu'il attende quoi que ce soit. Le second, parce qu'elle n'a finalement qu'un seul moyen de contribuer positivement à l'entreprise, arborer un air de confiance enjoué pour encourager ses équipes à redoubler d'efforts. Motiver les troupes, comme disait Pauline. Ou au moins pour éviter de leur transmettre son désespoir et sa confusion. Au fond d'elle-même, Liliane est rongée par l'angoisse. Elle mérite d'être citée longuement, car son témoignage illustre bien les dégâts spirituels causés par de telles situations. Liliane. C'est comment d'avoir un tel job ? Démoralisant. Déprimant. Pour moi, le sens de mon existence réside essentiellement dans mon boulot. Et là, j'ai un boulot qui n'a ni sens, ni but. Ça m'angoisse terriblement, parce que je vis dans la crainte permanente que quelqu'un se rende compte de l'inutilité totale de mon poste et décide de le supprimer pour faire des économies. En plus, ça ruine ma confiance en moi. Si je n'ai jamais de défi à relever, comment puis-je savoir si je suis compétente ? Peut-être que ma capacité à faire du bon boulot s'est complètement atrophiée. Peut-être que je ne sais plus rien faire qui vaille la peine. Je voulais me mesurer à des projets plus ambitieux et plus complexes, et voilà que je gère du vent. Je vais finir par perdre toutes mes compétences si je les laisse plus longtemps en sommeil. Et puis, j'ai peur que les autres membres du service s'imaginent que le problème vient de moi, que c'est moi qui ai décidé de me la couler douce ou d'être nul, alors que je n'y suis pour rien. Chaque fois que j'essaie de me rendre utile ou de prendre en charge plus de boulot, mes propositions sont écartées d'un revers de main, ou même tourner en dérision, comme si je cherchais à jouer les troubles faites et à défier l'autorité de mon chef. Je n'ai jamais été aussi bien payé pour faire si peu, et je ne mérite pas cet argent. J'ai des collègues, avec des intitulés de poste moins ronflants, qui abattent beaucoup plus de boulot, je le sais. Peut-être même que je gagne plus qu'eux. Est-ce que ça ne serait pas du vrai foutage de gueule ? J'aurai de la chance s'ils ne finissent pas par me haïr pour cette seule raison. Le récit de Liliane en dit long sur la souffrance que peuvent générer des situations de ce genre. La souffrance de n'avoir d'autres défis à relever dans son travail que celui qui consiste à accepter qu'il ne comporte aucun défi. La souffrance de n'avoir d'autre occasion de tester ses capacités que pour inventer des façons innovantes de dissimuler qu'on ne les utilise jamais. La souffrance de vivre avec l'idée qu'on a été transformé à son corps défendant en parasite ou en imposteur. De fait, il faut une sacrée dose d'assurance pour ne pas commencer à douter de soi dans de telles circonstances. Et cette assurance est parfois elle-même pernicieuse. Au fond, c'était la prétention stupide du boss de Liliane qui était la cause de tout. En psychologie, il existe une expression pour décrire ce type de dilemme, jouer un rôle sans texte. Plusieurs études se sont intéressées aux conséquences des expériences d'amour non réciproques vécues à l'adolescence. Elles ont montré que la plupart des hommes ou des femmes qui ont éprouvé un amour non partagé finissent par digérer l'épisode, n'en gardant que peu de cicatrices émotionnelles permanentes. En revanche, pour ceux qui ont été l'objet d'un amour unilatéral, c'est une autre histoire. Beaucoup se débattent encore avec la culpabilité et le désarroi. L'une des raisons majeures, expliquent les chercheurs, tient à l'absence de modèle culturel. Quand vous tombez amoureux d'une personne qui ne vous rend pas votre affection, vous avez à votre disposition des milliers d'années de littérature romantique décrivant par le menu les émotions que vous traversez. Mais si elle raconte avec un luxe de détails les affres de Cyrano, cette tradition demeure quasi muette sur l'expérience de Roxane, ce qu'elle est susceptible d'éprouver et, encore plus, comment elle est censée se comporter. De nombreux jobs à la con, je dirais la majorité, impliquent ce supplice du rôle sans texte. Ce n'est pas seulement que les codes de conduite sont ambigus, c'est que vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont vous êtes supposé réagir à la situation.